Au gré du temps, passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. Notre invité a remporté le 15 juin 2023 la première place au concours international de composition pour guitare classique du Festival Baltique de guitare en Lituanie. Et deux mois plus tard, la médaille d'argent dans la catégorie composition lors des Olympiades de la guitare réunissant 112 pays en Grèce. Les commentaires des juges ont souligné le caractère original de sa composition, démontrant un bel équilibre structurel et un développement mélodique accompli. Et en octobre, un autre prix s'est ajouté au concours international Drôme de guitare à Valence, en France. Alors c'est donc un grand honneur, un grand plaisir de recevoir aujourd'hui Suzy Auclair. Bonjour!
Bonjour, Monsieur Dubois!
Vous devez avoir vraiment le cœur en fait à la suite de ces prix qui vous sont accordés.
Ah oui, ça me fait vraiment plaisir d'avoir reçu toutes ces reconnaissances internationales, bien sûr.
Ce n'est pas évident parce que vous étiez dans une catégorie composition avec le mode, peut-on dire, classique, et vous avez fait preuve, selon les juges, d'une grande originalité, d'une très grande ligne mélodique. Alors ça, c'est tout à votre honneur.
Ah, merci beaucoup. Oui, c'est sûr que dans les concours internationaux comme ça, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Ça dépend du jury, ça dépend de quels sont leurs critères. Donc, d'un concours à l'autre, d'un pays à l'autre, ça change beaucoup. Donc, on y va avec des pièces qu'on pense qui pourraient plaire, mais c'est toujours une surprise.
Oui, il faut dire, parce qu'il y a bien des gens peut-être qui ne vous connaissent pas, vous êtes une guitariste qui fait vraiment de la musique depuis fort longtemps. Vous avez commencé très jeune à jouer de la guitare.
Oui, j'ai commencé la guitare classique à l'âge de 9 ans. Mon premier professeur, c'était Lise Lavoie dans la région de Québec. Et ensuite, j'ai étudié avec Claude McKinnon. Et ensuite, là, j'ai fait mes études au cégep de Sainte-Foy.
Parce que vous êtes originaire de Québec.
Oui, parce que je suis originaire de Québec, mais je suis de la région Québec depuis Québec. Fort le temps, oui, de la région de Québec, c'est ça. Oui. Et ensuite, c'est ça, j'ai fait mon parcours, là, le cégep à Sainte-Foy, puis ensuite, je suis allée étudier à Montréal avec le grand maître Alvaro Pieri, avec lequel j'ai fait mon baccalauréat en interprétation. J'ai fait aussi un baccalauréat en enseignement de la musique. Donc, j'ai commencé la musique, la guitare jeune, mais la musique même encore plus jeune, parce que mon papa faisait de la musique. Donc, j'ai commencé vers l'âge de 4 ans à l'accompagner un petit peu au piano.
Quand même, effectivement, le milieu familial y est pour beaucoup. Vous venez de le dire, votre papa jouait de la musique. Vous avez grandi dans un milieu, peut-on le dire, modeste, avec deux sœurs, une plus jeune, une plus vieille. C'est pour vous de beaux souvenirs, mais la musique était toujours omniprésente.
Oui, oui, j'ai une famille vraiment exceptionnelle, deux parents formidables, très encourageants, très généreux, qui étaient très persévérants, très axés tous les deux. Ma mère aussi sur les arts. Hein. Ma mère aimait beaucoup l'artisanat. Donc mon père vient d'une famille de musiciens folkloriques. Oui, c'est un environnement qui était propice aux arts et à la musique et à la culture. Oui.
Alors aujourd'hui, on va écouter bien sûr beaucoup de musique, beaucoup de vos composition, mais la toute première pièce que vous allez nous faire entendre, elle fait référence justement à votre enfance ou à votre environnement familial. C'est une pièce qui a beaucoup de signification pour vous.
Oui, en fait, c'est une pièce qui s'appelle Bonnie Kate. C'est un reel traditionnel irlandais qui est joué lors de la veillée des veillées en 1975 par mon grand-oncle Yves Verrett, qui se trouve être le frère de ma grand-mère, la maman de mon père, et qui joue en duo avec Jean Carignan, qui est violoniste que plusieurs connaissent.
Et c'est pas le moindre violoniste.
Et c'est une vidéo que mes parents nous mettaient souvent lorsqu'on était jeunes et j'étais en admiration devant mon grand-oncle et devant cette magnifique musique. Moi et mes sœurs, on écoutait ça et on aimait beaucoup, donc ça me rappelle des beaux souvenirs d'enfance. Ouais.
Alors on remonte donc en 1975 et on écoute Bonnie Kate. Thank you. Bonne et Kate qui rappelle de beaux souvenirs à notre invitée Suzy Auclair, qui est une guitariste de grand talent, qui vient de la région de Québec, qui a connu aussi un parcours scolaire, on peut le dire, bien facile d'une certaine façon, parce que vous n'aviez pas de difficultés, vous, en classe.
Non, j'ai toujours été une première de classe de mon enfance. Donc oui, j'étais très studieuse, je réussissais très bien, je recevais beaucoup de méritas. Donc autant au primaire qu'au secondaire, ça a bien été aussi au cégep, à l'université. Rendue à l'université, je suis allée à Montréal, comme je disais tout à l'heure. Et maintenant, je suis dans la région de Montréal depuis très longtemps. Mais oui, c'était un... même si je raffolais pas de l'école, je réussissais bien, disons.
Si je rappelle votre parcours scolaire, c'est que le fait d'avoir une certaine facilité au plan de l'apprentissage des matières de base, français, mathématiques, géographie, tout le reste, ça vous permettait à vous de poursuivre en parallèle des études musicales, à tel point qu'à 12 ans, vous avez remporté le concours de musique du Québec. Vous étiez, je pense, la première au niveau provincial dans le domaine de la guitare, et vous avez été boursière d'ailleurs.
Oui, à cette époque-là, j'étudiais avec M. McKinnon et puis on faisait beaucoup de concerts, de concours. Et oui, dès l'âge de 12 ans, j'ai remporté le premier prix au concours de musique du Québec. Puis l'année d'après, vers l'âge de 13-14 ans, j'ai joué comme soliste avec l'Orchestre symphonique de Québec au Grand Théâtre de Québec pour les matinées symphoniques, qui était un événement là, qui avait été fait en collaboration avec la Société de guitare Claude McKinnon. Et puis donc, on avait fait une 7 à 10, je pourrais plus dire exactement, ça fait très longtemps, j'étais très jeune, mais il me semble que c'était une bonne semaine de représentation, on faisait une à deux représentations par jour. Alors oui, c'est ça, dès mon plus jeune âge, j'ai eu la possibilité, parce que dans le fond, même quand j'étais au secondaire, on m'exemptait de certains cours, je devais me présenter aux examens, mais on m'exemptait de certains cours pour que je puisse pratiquer, parce que veux, veux pas, quand tu commences une carrière puis que tu fais beaucoup de musique comme ça, que tu consacres dès ton plus jeune âge, ça prend beaucoup d'heures dans une journée, donc on devait me donner la possibilité de le faire. Et mes parents, ma mère avait trouvé justement des collèges privés dans lesquels je pouvais aller étudier, qu'on me permettait de pratiquer la guitare pendant certains cours. Par exemple, j'étais exemptée des cours de musique, certains cours d'éducation physique ou télécours, disons, moins importants. Qui était moins de base, comme français, anglais, tout ça, fallait s'y rendre. Mais il fallait tout de même que je me rende toujours aux examens. Mais j'étudiais, tu sais, en rush à la dernière minute. Et donc, ça me permettait en même temps de faire tous les concours, les concerts, même avec notre professeur McKinnon. Monsieur McKinnon, à l'époque, on faisait même des émissions. J'ai commencé jeune, on a fait des émissions de télé, donc radio, donc tu sais, les radio-concerts de Radio-Canada, même quand j'étais adolescente. Donc, ça m'a permis, pendant mon enfance et mon adolescence, de vraiment me consacrer à la musique, parce que c'est ce que je voulais faire comme métier. Dès que j'ai eu la guitare dans mes mains au premier cours de guitare avec Lise Lavoie à 9 ans, je suis revenue de mon cours de guitare et j'ai dit à mes parents, plus tard, je serai guitariste classique professionnel, c'est ce que je veux faire. Donc, j'avais ça en tête dès cet âge-là.
Thank you. vient d'entendre Brisa de Verano par le groupe Amalgama. Un mot sur ce groupe parce que vous en faisiez partie.
Oui, donc c'est un groupe que j'ai fondé avec, au début c'était avec Louis Morneau en duo en 1998. Et puis c'est un groupe avec lequel j'ai fait de la tournée partout au Québec jusqu'en 2008. C'était deux guitares, deux percussionnistes, contrebasse. Et puis, bon, écoutez, on a fait bon de la tournée partout au Québec, dans des belles salles de spectacle, des grosses scènes, festivals, beaucoup d'émissions de radio, télévision. Et on a fait aussi un album qui s'appelle Brisa de Verano, qui est la pièce, cette composition-là, c'est la pièce titre de l'album. Et l'album d'Amalgama là, a eu vraiment un beau succès lorsqu'il est sorti en 2005. C'était même classé numéro 1 au palmarès de la disque à Radio-Canada, Espace Musique. C'était un album découverte GM des talents d'ici à couleur jazz. Il s'est retrouvé même en quatrième position en référence couleur jazz, qui était disque du mois chez Archambault. Bref, il y a eu beaucoup d'excellentes critiques unanimes, donc on ne peut pas espérer mieux.
Il faut dire que, si je reviens à votre parcours, quand vous étiez jeune, vous avez quand même eu des opportunités assez extraordinaires. Entre autres, par exemple, bon, vous avez participé à des camps musicaux renommés. On pense à celui du domaine Forget, le camp musical de Métabetchouan. Vous avez aussi connu des classes de maîtres avec de grands guitaristes. Je n'en mentionne qu'un seul parce qu'il est bien connu au Québec, c'est Alexandre Lagoya. Alexandre Lagoya de son vivant qui était très présent sur la fenêtre musicale du Québec. Et vous avez été une de celles qui a pu profiter des conseils de M. Lagoya. C'est quand même assez extraordinaire comme parcours.
Oui, oui, franchement, c'est beaucoup de travail, par contre, je dois le dire, mais oui, j'ai eu un parcours vraiment, comme vous dites, qui est vraiment extraordinaire. Oui, j'ai eu la chance d'avoir des classes de maître, justement, avec Alexandre Lagoya, Olivier Chassin, Stéphane Rack. Ça avait été organisé par la Société de guitare Claude McKinnon, mais évidemment, comme vous l'avez dit, également au domaine Forget, j'ai eu des masterclass avec les très renommés David Russell, Manuel Barueco, et ensuite, plus vieille, j'ai pu avoir des masterclass quand j'étais début vingtaine, là, avec Wolfgang Lindel, Jacob Lindberg, Roberto Ossel, qui est un très grand guitariste, et même des stages de perfectionnement avec Leo Brower, qui est un très grand guitariste en 1994. Donc oui, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de perfectionner, de parfaire mon jeu instrumental avec plusieurs grands maîtres de la guitare, en plus de mon enseignant Alvaro Pieri, avec lequel j'ai étudié pendant 6 années à l'université. Donc oui, j'en suis très reconnaissante pour toutes les personnes, d'ailleurs tous les professeurs que j'ai eus dans ma vie. Je suis extrêmement reconnaissante que ces gens-là ont pu me transmettre leurs conseils, oui.
Vous parliez de Roberto Ossel. On aura l'occasion d'entendre la musique de Roberto Ossel ultérieurement. Je mentionne aussi que vous composiez. Vous avez commencé à composer relativement jeune. Vous ne faisiez pas que de l'interprétation.
Non, en fait, j'ai toujours été tant attirée par la composition, même que je me souviens que toute petite, dès que j'ai eu une guitare dans mes mains, là, donc vers l'âge de 9 ans, je me levais en cachette la nuit et ma mère découpait souvent les cartons des boîtes de céréales pour qu'on fasse, tu sais, pour récupérer, pour pas qu'on achète toujours du papier. Donc, elle était très écolo, là. Donc, et je prenais les versos de boîtes de cartons de céréales et j'écrivais, je me dessinais des portées et j'écrivais mes idées musicales ou mes notes dans la nuit que j'entendais. Et ensuite, j'allais me recoucher. Donc, j'étais jeune, là, j'avais 9-10 ans. Donc, j'ai toujours aimé composer.
Alors, la maman qui était écolo avant le temps, la jeune fille qui, elle, était compositrice avant le temps aussi, tout ça, c'est rempli d'espoir. C'est un beau moment pour écouter Esperanza, encore une fois, le groupe Amalgama. Notre invitée aujourd'hui, Suzy Auclair, guitariste et qui ne cesse de nous étonner par son parcours. Elle a joué de la guitare très très jeune. Là, vous nous disiez que vous composiez même à l'arrière des cartons de boîtes de céréales parce que c'était la façon peut-être d'économiser le papier, mais de pouvoir quand même aller faire aller son sens de la créativité à tout cran.
Oui.
Ouais. Dites-moi, dans la vingtaine, vous avez eu aussi d'autres belles opportunités. On fait vraiment un peu le parcours qui a amené les grands prix que vous avez remportés récemment, avec lesquels vous êtes bien sûr très heureuse, pour lesquels vous êtes très heureuse. Mais tout cela est quand même la résultante d'un parcours fascinant parce que vous avez participé à plusieurs émissions, à la radio, vous avez participé à de nombreux festivals aussi. Et ça marque évidemment, j'imagine, un parcours. Déjà qu'à 23 ou 24 ans, je pense que vous êtes devenu professeur de guitare.
En fait, j'ai commencé à être professeur de guitare à l'âge de 15 ans. Donc, j'ai commencé à enseigner la guitare à 15 ans et dès l'âge de 16 ans, dans un service des loisirs, j'avais déjà toutes mes classes de guitare. J'organisais déjà les concerts pour les élèves. Donc, c'est sûr que parallèlement à ma carrière d'interprète, l'enseignement a toujours été présent dès l'âge de 15 ans. Et puis, à 23, 24 ans, oui, j'ai enseigné pendant une année au cégep, au campus Notre-Dame-de-Foix, au niveau collégial, mais j'ai enseigné dans plusieurs écoles de musique puis dans plusieurs municipalités toute ma vie, jusqu'à ce qu'en 2003, je fonde ma propre école de musique. Mais avant ça, j'ai même mis sur pied les cours, un peu le département de musique à la ville de La Prairie, à la ville de Lachenaie également. Je peux pas tout vous nommer, là, mais j'ai travaillé dans de nombreuses villes, dans de nombreuses écoles de musique. J'enseignais la guitare à tous les niveaux. J'ai même fait des méthodes de guitare. Et donc, je me suis toujours beaucoup impliquée au niveau de l'enseignement de la guitare classique parce que c'est un instrument que j'adore et je voulais transmettre ma passion également. J'ai aussi dirigé des orchestres de guitare avec des jeunes et des moins jeunes. Oui, c'est ça. Donc, l'enseignement, ça...
Oui, votre humilité vous empêchera peut-être de dire que vous avez mis beaucoup, beaucoup d'énergie à faire tout cela parce qu'à un certain moment, vous faisiez même la navette entre Montréal et Québec. Parce que vous donniez des cours à gauche et à droite et vous donniez aussi des prestations. Vous participiez à des émissions radiophoniques, à Radio-Canada, entre autres. Vous avez fait plein de choses à une époque là, où il n'y avait pas suffisamment d'heures dans une semaine.
Non, c'est un peu l'histoire de ma vie parce que je suis une fille qui aime beaucoup avoir des projets. Donc, effectivement, vers 18 ans, avec ma sœur la plus vieille, on a fondé une entreprise qui était un camp artistique. En même temps que j'avais cette entreprise-là, je faisais mes études à Montréal, mais j'étais à Montréal 4 jours semaine, mais les vendredis, samedi, dimanche, je remontais à Québec parce que je voulais pas laisser mes élèves là-bas. Donc, j'allais enseigner à Québec les fins de semaine. L'été, je montais à Québec aussi pour notre camp qu'on a eu pendant 3 ans, où c'était un camp axé sur musique, danse, théâtre, art plastique pour les enfants de 4 à 12 ans. Donc, et bien sûr, dans toute ma vingtaine et trentaine, en plus de tout ça, j'ai fondé mon école de musique, j'ai fondé ma compagnie de disques avec Amalgama. Je faisais les relations de presse, le booking, plus moi-même comme interprète et musicienne. Oui, donc j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de choses.
J'arrête l'interprète parce qu'on va l'entendre dans un prélude. Qui est parmi ce prélude fait partie des prix que vous avez remportés, le prélude de La Bienveillante, c'est exact?
Oui, c'est une composition que j'ai faite en 2021 pour ma sœur Nadia, la plus jeune.
C'est cette pièce qui vous a permis de vous distinguer à l'étranger, entre autres.
Entre autres, oui. En fait, ça, c'est le premier mouvement d'une suite qui s'appelle la suite numéro 1, l'inconditionnel. Et moi, j'avais présenté deux mouvements. J'avais présenté Prélude de la bienveillante et Sarabande la nostalgique. Donc, ces deux pièces-là ont obtenu justement le premier prix au concours Baltic Guitar Festival en Lituanie, puis la médaille d'argent aux Guitar Olympiades en Grèce. Mais c'est avec une autre pièce que j'ai eu le troisième prix en France. C'est une pièce qui s'appelle Tombeau sur ma mort, qui est une autre pièce pour le dernier prix là, que j'ai reçu, le troisième prix au concours international Drôme de guitare en France. Ouais.
Oui. Qu'est-ce que cet instrument, qui est la guitare, a de particulier si on le compare à tout autre instrument?
Moi, ce que j'aime beaucoup de la guitare, c'est sa sonorité. Tout de suite, quand cet instrument-là, je l'ai vu sur moi, puis que ça vibrait, ça me parlait, ça fitait bien avec moi, mon âme, ce que je suis. C'est un instrument qui est polyphonique, hein? Donc un peu comme le piano ou la harpe. Donc, tu sais, contrairement aux instruments avant qui sont pas polyphoniques, moi, je trouve ça bien d'avoir un instrument polyphonique. Donc, on peut, dans le fond, on fait notre mélodie, notre accompagnement en même temps. C'est ça. Donc, la guitare classique a toute une histoire hein, qui date de plusieurs siècles. C'est un instrument qui est riche au niveau du répertoire aussi. On peut jouer de la musique de la Renaissance, baroque, classique, romantique, tous les styles de musique. Moi, c'est un instrument qui me fait vibrer beaucoup. Oui.
Quand vous dites qu'on peut jouer toutes sortes de musique, bien là, je pense qu'on va avoir un exemple de cela parce qu'on va entendre une pièce qu'on a cru longtemps être une pièce composée par Simon & Garfunkel, mais ce n'est pas le cas. C'est un vieux classique irlandais ou britannique, je ne sais guère. Ça s'appelle Scarborough Fair, mais vous l'avez interprété avec Martin Véro d'une manière tout à fait exceptionnelle. Alors, quand on parle de... Oui, allez-y.
Bien, c'est une ballade traditionnelle anglaise qui était très populaire au 18e siècle, Scarborough Fair. Puis oui, qui a été repris par Simon & Garfunkel. Mais oui, on a fait moi, j'avais fait un arrangement là, dans les années, je pense, en 2000 de cette pièce. Et mon mari a terminé l'arrangement. Martin Véro, c'est mon mari qui est guitariste aussi. Et on a réussi à enregistrer cette pièce-là malgré les épreuves de la maladie. Parce que, bon, mon mari a eu quand même un cancer et moi, j'ai une maladie... orpheline, on va peut-être en reparler plus loin. Mais c'est ça, et on a trouvé un petit moment en décembre 2020 où ça allait un petit peu mieux, qu'on avait un petit répit et où on a pu enregistrer cet arrangement-là.
Et cette balade, effectivement, a traversé les années. Comme vous le disiez et comme on le disait, elle a été reprise par Simon & Garfunkel. C'est presque une pièce mythique pour bien des Américains, parce que ça évoque aussi une période peut-être un peu plus sombre de l'histoire américaine. On est à l'époque un peu de la guerre au Vietnam, du peace and love, et cette pièce devenait comme une sorte d'apaisement à cette mouvance qu'il y avait un peu partout à travers le monde et qui continue malheureusement d'exister aussi avec d'autres types de guerres. Mais on vous écoute, vous allez nous apaiser sûrement beaucoup. Martin Véro, Suzy Auclair, Scarborough Fair. Thank you. Suzy Auclair, notre invitée guitariste qui a remporté de très beaux prix international, particulièrement un prix d'excellence en Lituanie, récemment à Valence en France également. C'est quand même agréable de pouvoir participer à de tels concours, même si, j'imagine, la pression est énorme.
Je dirais pas que la pression est énorme. Moi, je l'ai... Non. Moi, j'y vais quand je trouve qu'une pièce mérite d'être présentée, je la présente. Mais oui, je trouve ça très agréable parce que ce qui arrive, en fait, pour bien expliquer, c'est que moi, j'ai dû arrêter de faire de la tournée en 2008 à cause de ma maladie. J'avais pas de diagnostic à l'époque, mais j'étais plus capable de faire de la tournée. C'était trop exigeant. Et j'ai fait des concerts déjà dans le passé, en 1995, je crois, en France. J'avais été en France, en Espagne, avec un duo de guitare. Mais je voulais faire une carrière internationale. Et puis, en 2008, on avait beaucoup d'offres avec Amalgama pour aller faire de la tournée un petit peu partout, en France, en Italie, tout ça, en Europe. Là. Bon. Et puis, j'ai dû mettre fin. Et puis, en fait, en participant à ces concours internationaux-là en composition, j'ai pas nécessairement à me déplacer, ça peut convenir à ma condition médicale. Et puis, parce que dans le fond, quand on participe à ces concours-là, c'est de façon anonyme. Hein? On envoie une partition qui est anonyme, on met pas notre nom sur la partition, puis on envoie un MP3. Il y a pas notre nom sur le MP3. Il y a un jury de guitaristes, compositeurs renommés qui jugent. Et donc, ça nous permet d'avoir quand même contact avec ces juges-là, les autres musiciens qui participent à ce concours-là. Et donc, quelque part, ça vient mettre un baume pour moi au fait que j'ai malheureusement, à cause de la maladie, pas pu... j'ai dû mettre un terme à ma carrière d'interprète et j'ai pas pu faire une carrière internationale comme je l'avais prévu et comme j'aurais pu le faire. Ça vient apporter du beau à travers toutes les épreuves de la vie, ouais.
Parfait. Alors, on va revenir sur cette condition médicale qui est la vôtre. Mais auparavant, on va écouter une chanson très légère, mais qui évoque peut-être un beau souvenir de vos premières années. La chanson a pour titre « Ma première guitare ». Elle est chantée par le regretté Sacha Distel, accompagnée par le grand violoniste Stéphane Grappelli.
D'accord, ce sera une belle découverte.
J'avais 15 ans, c'était le temps de ma première guitare. Et tout ce temps revient souvent du fond de ma mémoire. Ces 15 ans-là, c'était Django qui les mettait en fête. En ce temps-là, c'était Django qu'on avait dans la tête. Et dans sa il y avait comme une odeur de feu de bois. Il y avait un je ne sais quoi, moitié Harlem, moitié bohème. Et sur tout ça, assez joyeux, de merveilleux nuages, pareil à ceux qu'ont dans les yeux tous les gens du voyage. Depuis ce temps, j'ai eu le temps de changer de guitare. Mais le gitan de mes 15 ans est là dans ma mémoire. Et bien des fois, c'est malgré moi, il me vient quelques notes, comme un refrain venu soudain du fond d'une roulotte. Alors je sens sous mes doigts monter l'odeur du feu de bois. J'entends comme un je ne sais quoi, moitié Harlem, moitié bohème. Et sur mon cœur passe joyeux ces merveilleux nuages, pareils à ceux qu'ont dans les yeux les enfants du voyage.
Sacha Distel et Stéphane Grappelli, ma première guitare, notre invité aujourd'hui, Suzy Auclair. Suzy, vous avez mentionné à quelques reprises depuis le début de cette émission, à cause de ma maladie, en fait, vous souffrez du syndrome d'Ehlers-Danlos, c'est une maladie héréditaire du tissu conjonctif, c'est bien cela?
Oui, c'est ça.
Qu'est-ce que provoque ce syndrome
au plan limitatif? Oui. Ah, ben c'est complexe, hein, parce que dans le fond, c'est une maladie multisystémique. D'abord, le tissu conjonctif, 80 % du corps est fait de tissu conjonctif. Donc, automatiquement, ça atteint, d'abord, ça nous cause de l'hyperlaxité ligamentaire, hypermobilité articulaire partout dans le corps. Et donc, ça nous cause des problèmes au niveau des articulations, des tendons, des muscles, des ligaments, etc., etc., certains organes et différents systèmes, comme le système nerveux autonome et d'autres systèmes aussi dans le corps. Donc, ça fait que dans le quotidien, on se blesse très, très facilement. On se fait plusieurs déchirures, luxations, dislocations, entorses, etc., etc., tendinite, ténosynovite, bursite, c'est non-stop, là, sans arrêt, partout dans le corps. Et ça cause aussi beaucoup d'autres problèmes qui sont reliés justement au système nerveux autonome, de la dysautonomie, aux problèmes d'arythmie cardiaque, la pression artérielle. Bon, je ne vais pas tout nommer, là, ça serait, mais c'est vraiment une maladie multisystémique. Donc, c'est sûr que ça cause des limitations physiques et ça nous crée en fait un handicap. Moi, j'ai obtenu mon statut d'handicapé. J'ai eu ce diagnostic-là très tard, donc après plus de 4 décennies d'errance médicale, parce que comme c'est une maladie extrêmement rare, puis aussi qui se manifeste de façon très différente d'une personne à l'autre et à divers degrés. Moi, je suis quand même très atteinte. Mais il y a certaines personnes qui vont faire pratiquement toute leur vie normalement. Et il y en a d'autres comme moi, malheureusement, comme moi, j'ai fait plus d'un an et demi de réadaptation. Et au terme de ma réadaptation, à l'automne 2022, j'ai été déclarée inapte à tout emploi, invalide à 100% et que je nécessitais une aide humaine pour le reste de ma vie maintenant.
Est-ce que j'imagine que cela vous empêche maintenant de jouer de votre instrument?
Ben c'est ça le drame de toute ma vie, parce que enfin, moi c'est ma passion, c'est mon identité, la musique c'est toute ma vie, hein, c'était autant mon loisir que mon métier. Et donc oui, c'est ça, ça me cause vraiment, là, je peux plus jouer beaucoup de guitare, je réussis quand même à composer un peu, mais il faut différents moyens pour y parvenir. Et malheureusement, au niveau des programmes du gouvernement et de l'aide dont on aurait besoin, malheureusement, on nous refuse souvent l'aide quand c'est une maladie orpheline, parce qu'on ne comprend pas notre situation, on ne comprend pas nos besoins. Donc finalement, on est laissé face à nous-mêmes bien souvent. Il y a un peu d'aide, mais je veux dire, la majorité du temps, c'est des batailles continuelles contre les gens en place, contre le système, pour dire, mon métier, c'est la musique. Oui, mais au Québec, la musique, c'est pas reconnu comme un métier. Donc, d'expliquer qu'on a besoin d'une orthèse de guitare pour pouvoir jouer, non, on la fabriquera pas. On veut pas nous aider. Donc, c'est vraiment difficile. La maladie est difficile, mais je dirais qu'une des choses la plus difficile, c'est tous ces combats et toutes ces batailles qu'on doit amener contre le système, parce qu'on a besoin d'aide pour se déplacer à nos rendez-vous, parce qu'on a besoin d'aide pour ci, pour ça. Et malheureusement, le système n'est pas fait pour nous aider quand on se retrouve justement dans une situation d'invalidité, qu'on était travailleur autonome, puis qu'en plus, on a une maladie rare que personne ne connaît, puis qu'il n'y a pas de petite case dans les formulaires du gouvernement. Là. Vous comprenez ce que je veux dire?
Absolument.
Je ne vais pas m'y attarder, ce serait un long sujet. Mais donc, ça fait que la vie est extrêmement compliquée pour réussir à accomplir des petites choses à son rythme. On doit d'abord être fait très fort psychologiquement parce qu'on se heurte à des murs tout le temps. Et à de l'incompréhension continuelle. On se fait souvent traiter comme un déchet. C'était le feeling que j'avais souvent. Et puis, donc pour continuer la musique dans cette situation-là, ça demande vraiment beaucoup, beaucoup de débrouillardise.
Détermination.
De détermination et d'avoir un moral à toute épreuve parce qu'ils sont là pour nous détruire le moral beaucoup, beaucoup. Donc, il faut qu'on garde le cap, qu'on garde ses objectifs en tête. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire. Et par le biais des concours internationaux, ça m'oblige à me trouver des façons aussi, avec mon mari qui m'aide beaucoup.
C'est ça qui est quand même assez formidable. Vous maintenez le rêve très vivant. J'enchaînerai avec Henri Salvador tout de suite, parce que lui, il dit « J'ai tant rêvé ».
D'accord.
« J'ai tant rêvé ». De pouvoir voler bien au-delà du soleil, d'être toujours comme un enfant qui s'émerveille. Oh oui, j'ai tant rêvé, j'ai tant cherché à remonter jusqu'à la source du bonheur, à comprendre pourquoi soudain battait mon cœur. Oh oui, j'ai tant cherché, j'ai tant voulu connaître le pourquoi, le comment. J'ai voulu retrouver tous mes rêves d'enfant. Je n'ai jamais compris pourquoi il faut grimper si haut pour voir sa vie. J'ai tant connu tous ces matins qui n'ont ni rime ni raison, tous ces demain qui n'osent pas dire leur nom. Pourquoi l'amour s'éteint toujours au fond? Ces matins qui n'ont ni rime ni raison, tous ces demain qui n'osent pas dire leur nom. J'ai voulu voir, j'ai voulu croire, j'ai tant.
Vous avez beaucoup rêvé et vous continuez de rêver aussi, Suzy, avec cette maladie dont vous parliez. Quand on parle de maladie orpheline, ça veut dire une maladie qui est rare. Dans le cas de votre syndrome, je crois que les gens qui en sont atteints, c'est à peu près une personne sur 5 ou 10 000, n'est-ce pas?
Je ne sais pas exactement. Ça dépend. Il y a plusieurs formes de la maladie. Oui, c'est ça, mais c'est quand même rare. Et aussi très peu connu du corps médical. C'est pour ça que c'est extrêmement long de recevoir un diagnostic. Et
donc,
c'est pour
pas, ça beaucoup qu'on... pas beaucoup de recherches, je
non,
présume?
Non, très peu de recherches. Et aussi, c'est beaucoup de maltraitance médicale, beaucoup d'incompréhension. Oui, c'est pas évident. Ouais.
Est-ce que vous continuez malgré tout à maintenir votre école de musique, à donner des cours, à transmettre un peu cet engouement que vous avez pour la guitare?
Mon école de musique, on l'a gardée ouverte, mais c'est mon mari qui s'en occupe davantage parce que moi, tout ce qui est les gestes répétitifs comme faire l'ordinateur, la souris, ça me blesse. Je suis pas capable de rester assis longtemps droite dans une position, plein de choses comme ça. Enseigner, malheureusement, j'ai dû arrêter d'enseigner il y a quelques années déjà parce que j'étais plus du tout capable à cause des multiples blessures et que j'étais toujours trop malade là, pour pouvoir... j'avais trop de rendez-vous médicaux. Des fois, j'étais à l'hôpital et en réadaptation des 4 jours/semaine. Et aussi, je suis plus assez capable là, de jouer pour pouvoir enseigner. Puis c'est trop exigeant, les gestes, c'est de se pencher pour écrire dans le livre de l'élève, donner les exemples, accompagner. Donc, j'ai dû faire le choix là, en 2021, je crois, là, d'arrêter complètement. J'avais quand même beaucoup diminué parce que, tu sais, ça se fait pas du jour au lendemain. Hein. Tu sais, on dégrade, c'est une maladie qui dégénère graduellement. Donc, on fait des deuils petit à petit, puis on arrête des choses petit à petit, puis on fait face à des, bon, ben maintenant, je suis plus capable de faire mon épicerie, maintenant, je suis plus capable de conduire, maintenant, je suis plus capable. Donc, les choses s'arrêtent une après l'autre. Mais c'est sûr que arrêter d'enseigner, ça, j'ai trouvé ça difficile parce que j'ai quand même enseigné pendant 35 ans environ, en tout cas, ouais. Pendant plusieurs années.
Où trouvez-vous encore le désir de poursuivre en dépit de toutes ces contraintes?
Ah, ben c'est comme si la musique m'habite, la guitare classique, la musique c'est toute ma vie, ça m'habite. Je peux pas, puis moi je suis une artiste puis j'ai besoin de créer, donc je peux pas enlever ça de moi, vous voyez.
Mais c'est un beau message d'espoir que vous transmettez à toutes les personnes qui sont aux prises avec d'autres types de difficultés. Vous leur dites, dans le fond, la persévérance, le maintien du désir, par exemple, par rapport à la musique dans votre cas, peut me donner encore le goût de vivre.
Bien oui, absolument, parce que sinon, c'est ce que, quand j'ai commencé ma réadaptation, je leur expliquais, parce que, tu sais, au départ, souvent, on va nous dire, ben, on va te réadapter pour les choses essentielles. Tu sais, quand la réadaptation se fait, c'est pour les choses essentielles de la vie, être fonctionnel dans sa maison, se laver, les repas, des choses comme ça. Mais ils réalisent pas que pour nous, comme artistes, comme musiciens, être capable de s'exprimer par le biais de la musique, c'est essentiel pour nous.
Absolument.
Oui, c'est ça. Et donc, c'est pour ça qu'on trouve toujours les moyens, même si des fois, c'est vraiment difficile de trouver les façons. On finit par trouver les moyens, des stratégies pour y arriver, même si des fois, je vous expliquerai en détail, vous diriez, mon Dieu, tous les efforts que ça demande.
Bon, on va avoir l'occasion de le faire peut-être la semaine prochaine. C'est tout le temps que nous avons pour cette émission. On vous invite à nous revenir la semaine prochaine. Vous serez des nôtres.
Oui, ça va me faire tout à fait plaisir.
D'accord. Et puis, ben, le temps de vous dire, Suzy, que cette émission a été réalisée sous la supervision technique de Lysandre Duplay, Armand Dubois à l'animation et la réalisation. Et on va se quitter avec comme thème de fermeture une de vos compositions qui est, je pense, la seconde partie qui a fait partie du concours, la Sarabande la Nostalgique, c'est exact?
Oui, c'est une pièce que j'ai composée en 2007 environ.
Et vous l'avez composée avec quelle intention? Est-ce qu'il y avait une intention?
Je pense que c'est une pièce assez... ça le dit, hein, c'est nostalgique. Donc, je pense que c'était peut-être dans des moments assez difficiles aussi, puis peut-être mélancolique. Ouais, dans un esprit mélancolique, je dirais.
Alors, on vous retrouve la semaine prochaine, Suzy.
Merci.